Désiré bois, plantes à épices, à aromates, à condiments, le poivre. Au premier rang des épices de grand usage en Europe et dans les diverses parties du monde se trouve le poivre. C'est le fruit séché d'une liane qui croît à l'état sauvage dans l'Inde, en Malaisie et en Indochine, mais qui est cultivé en Asie méridionale, Malabar, État fédéré malais, établissement des Détroits, Cochinchine, Cambodge, et dans l'insulinde, Java, Bornéo anglais. Selon Tsirsch, Cosmas Indicoplustes, au VIe siècle, semble avoir le premier remarqué cette plante et il serait le plus ancien voyageur européen qui ait parcouru le pays du poivrier, qu'il compare à la vigne. Il nomme 5 ports exportateurs de poivre. Cette liane ne prospère réellement que dans la zone équatoriale humide, entre le 15e degré de latitude nord et le 15e degré de latitude sud. Le poivrier est une plante grimpante, à tige ligneuse à la base et à rameaux herbacés. Les tiges flexibles, noueuses, produisent, comme celles de la vanille, des racines adventives qui les maintiennent sur le tronc des arbres ou sur les rochers de leur voisinage, supports à l'aide desquels elles peuvent s'élever jusqu'à 8 ou 10 mètres de haut. Les feuilles sont alternes, pétiolées, à limbe ovale ou lancéolée, palminerve, épais. Les inflorescences sont des épis allongés, généralement simples, quelquefois ramifiés, opposés aux feuilles. Les fleurs minimes, nombreuses dans les épis, sont hermaphrodites ou unisexuées par avortement. Il y a donc parfois des pieds mâles et des pieds femelles, et ce cas est assez fréquent chez les plantes qui croissent à l'état sauvage. Le fruit, grain de poivre, sessile, offre sous ses téguments deux albumènes, l'un très développé qui remplit la presque totalité de la graine, l'autre placé au-dessus et beaucoup moindre, logeant un embryon minuscule droit à radicule conique dirigé vers le micropyle et à cotylédon tourné directement vers la base du fruit. Le pédoncule commun, ou axe de chaque épi, supporte de 20 à 30 fruits globuleux de la grosseur d'une baie de genévrier, d'abord vert, puis rouge et qui jaunissent en mûrissant. Il se récolte avant maturité. En séchant, ils se teintent de gris noirâtre ou de brun, leur surface se ride et ils ont alors une odeur particulière et une saveur brûlante. On croyait autrefois que le poivre noir et le poivre blanc étaient produits par deux plantes différentes, mais il n'en est rien. Le poivre noir du commerce est le fruit entier, cueilli avant complète maturité et soumis telle qu'elle à la dessiccation, au lieu que le poivre blanc est le fruit parfaitement mûr, débarrassé de la couche extérieure et charnu du péricarpe. La couche intérieure blanche adhérant intimement au tégument subsistant seul sur la graine. Le poivre blanc est moins brûlant, mais plus parfumé que le poivre noir, car la pipérine, de saveur piquante, prédomine dans la pulpe du fruit, l'huile essentielle odorante se trouvant surtout dans la graine. Le poivre blanc a une valeur marchande un peu plus élevée que le poivre noir. Il est particulièrement recherché en Extrême-Orient. Nous avons déjà vu que plusieurs épices à saveur très prononcée viennent de l'Extrême-Asie, où elles ont dû servir de tout temps pour remédier à l'influence débilitante du climat et à l'uniformité d'un régime dont le riz constitue le fond. Ces condiments énergiques, propres à l'Inde et à l'archipel indien, ont été l'objet d'un très ancien négoce et sont restés longtemps rares et précieux. Ils ne se sont vulgarisés que dans l'âge moderne. Les Grecs, principalement à partir de l'expédition d'Alexandre, eurent connaissance de quelques-uns de ces produits, mais ils les reçurent toujours trop irrégulièrement pour les consommer couramment. Vers la fin de l'Empire, Rome était mieux approvisionnée et lorsqu'Alaric s'en empara, il exigea comme tribut, entre autres trésors, 3000 livres de ces denrées. Au Moyen Âge, elles redevinrent extrêmement rares et d'autant plus estimées que l'invasion des barbares et la conquête arabe supprimèrent tout rapport avec les lieux de production. À l'époque des croisades, on avait perdu la notion de leur provenance et on leur attribuait une origine surnaturelle. Les Vénitiens qui les importaient appelaient le poivre « graine de paradis », ce qui ne pouvait manquer d'augmenter sa valeur. On offrait ces articles en cadeau de fête, de mariage et de nouvel an. Le tribut était souvent levé en poivre et les impôts, rentes, taxes, droits de douane, rançons des serfs se soldaient parfois au moyen de cette épice. Une denrée si chère fut d'abord débitée à l'once chez les apothicaires. L'établissement de boutiques spéciales d'épiciers qui, à Paris, date du début du XIVe siècle, marque le moment où, par la suite d'un abaissement de prix, le poivre devint de consommation courante. Le trafic des épices fit alors la fortune de Venise. Le poivre est la première épice qui est parue en Europe. Les Grecs, qui avant de le connaître, employaient au même usage les baies de myrte, le tiré de l'Inde. Dioscoride et Galien différenciaient trois sortes de poivre, le noir, le blanc et le long. Nous lisons dans l'Historia Naturalis de Pline que le premier se vendait 4 deniers la livre, le second 7 deniers et le dernier, le plus rare et le plus estimé, 15 deniers. Il ajoute qu'autrefois, cette marchandise ne s'achetait qu'au poids de l'or. Il en fut ainsi durant tout le Moyen-Âge, où l'expression « chair comme poivre » était proverbiale. Au XVe siècle, il valait encore 2 marcs d'argent la livre. Au XIIe siècle, Geoffroy, prieur de Vigeois, voulant donner une haute idée de la magnificence de Guillaume, comte de Limoges, dit qu'il avait chez lui des tas énormes de poivre amoncelés sans prix, comme si c'eût été du gland pour les porcs. Au XVIe siècle, les Portugais introduisirent le poivre en Europe par le cap de Bonne-Espérance et son prix baissa. Le premier bateau qui apporta cette épice à Anvers entra dans ce port en 1522. Les Portugais conservèrent le monopole de ce commerce jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vers ce temps que le poivrier parvint à l'île de France et à l'île Bourbon, puis aux Antilles et à la Guyane. Mais sa culture ne se développa jamais beaucoup dans ces colonies. En Indochine, où la plante croît à l'état sauvage, notamment au mont Bavi, Tonkin, et dans les forêts du Cambodge, les indigènes en utilisèrent les fruits probablement de toute antiquité. On manque de renseignements précis à cet égard. Le poivrier était déjà cultivé en Cochinchine lorsque ce pays fut rattaché à la France. Le centre de culture de Hong Kong existait, exploité par les Chinois, mais les exportations étaient insignifiantes. Les principales régions productrices et exportatrices du poivre sont les Indes néerlandaises, Java, Bornéo, Sumatra, Singapour et la péninsule malaise, Straits Settlements, État fédéré malais, Sultanat de Johor, le Siam, l'Indochine, Cochinchine et Cambodge. le sud-ouest de l'Inde. Il y a quelques variétés du Pipernigrum dans la péninsule malaise et dans l'Inde. Celles de cette dernière contrée ont été étudiées par Barber, pour qui les trois plus importantes sont premièrement, le Balamkota, à très grandes feuilles atteignant en moyenne 25 cm de longueur sur 12 dans la plus grande largeur, à épi ayant ordinairement 15 cm, portant des fleurs un peu espacées. Cette variété est très vigoureuse et ses fruits, d'un poids élevé, mûrissent simultanément, ce qui en rend la récolte facile. C'est la plus cultivée dans l'Inde. Deuxièmement, le Kalivali, à feuilles d'un vert foncé au lieu d'être d'un vert clair comme la variété précédente. À épis plus courts et plus denses, les grains sont lourds et de qualité considérée comme supérieure, mais ils mûrissent par périodes successives, ce qui oblige à échelonner les cueillettes. Aussi, la culture de cette variété est-elle moins répandue. Une sous-variété caractérisée par la forme de ses feuilles qui rappelle celle du lierre et pour cette raison dénommée Ivy Lift Form. Troisièmement, le Keriakodi, plante de petite dimension à feuilles d'un vert foncé ne mesurant que 15 à 20 cm de longueur sur 7 à 10 cm dans la partie la plus large, à épis courts de 2,5 cm à 5 cm de longueur, dont les fleurs sont très serrées. Les fruits mûrissent rapidement et sont produits en abondance. Aussi, cette variété est-elle assez prisée des cultivateurs. Les Européens emploient le poivre particulièrement comme épice et en parfumerie pour la production de l'héliotropine. C'est un remède des Chinois, des Hindous et des Annamites depuis des temps très reculés. Il assaisonne la plupart de nos mets. Sa saveur chaude et aromatique relevant celle des aliments animaux et végétaux, spécialement de ceux qui sont d'une nature fade, visqueuse, gélatineuse, et il aide à leur digestion. En outre, par un usage modéré, il stimule l'estomac et tonifie tout l'organisme. Les peuples des pays tropicaux l'utilisent encore plus afin d'exciter les fonctions digestives que débilite la chaleur intense du climat. L'abus du poivre est nuisible et peut causer des désordres. En thérapeutique, le poivre est négligé de nos jours. On le regarde comme tonique, excitant, aphrodisiaque, carminatif et fébrifuge. C'est un violent sternutatoire. Mâché en grains, il provoque une forte sécrétion de salive. Les poules mangent avec plaisir, dit-on, le poivre en grains qui avance leur ponte. Le poivrier prospère surtout dans la zone équatoriale, régulièrement chaude et humide, dans les localités basses des régions montagneuses. Il redoute les vents impétueux, les pluies excessives et les grandes sécheresses. Un sol humide et fertile lui convient, pourvu que l'eau n'y soit pas stagnante. Les terres argilo-sablonneuses, riches en humus, lui sont les plus favorables. La plante exige un demi-ombrage qu'on lui procure en la faisant grimper autour d'arbres à feuillage léger ou en la cultivant au voisinage d'arbres qui l'abritent, mais ne porte pas une ombre trop épaisse. Un bon éclairement est indispensable pour que les fruits soient abondants et mûrissent bien. La multiplication du poivrier s'obtient presque toujours par bouture. La reproduction par graines est longue et sans avantage. Pour le bouturage, on prend l'extrémité de tige de poivrier considérée comme étant les plus vigoureux et les plus sains, et on les étête. On évite de se servir des rameaux latéraux. En Cochinchine et au Cambodge, on coupe des boutures de 50 à 60 cm de longueur au mois d'avril, au commencement de la saison des pluies. On les plante aussitôt en pépinière, en les protégeant des rayons du soleil, au moyen de clés ou de paillotes. De faibles arrosages leur sont parfois nécessaires. Dans ces conditions, ces boutures s'enracinent rapidement et peuvent être arrachées pour être placées à demeure 2 ou 3 mois après leur mise en pépinière. Le terrain pour la plantation ayant été choisi judicieusement et nettoyé convenablement. Comme il doit être neuf de préférence, un déboisement ou un débroussaillement sont souvent requis. Sa couche de terre meuble sera épaisse, les racines du poivrier pouvant s'enfoncer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Lorsque le sol a été défriché, on creuse en ligne et à une distance de 2 mètres en tous sens des trous profonds de 40 cm et larges de 30 cm que l'on emplit de bonne terre et dont chacun reçoit une bouture enracinée provenant de la pépinière. On dispose en même temps, au pied de ces jeunes poivriers, un tuteur en bois mort de 3 à 4 mètres de hauteur et de 7 à 8 cm de diamètre. Les tuteurs sont une source de dépenses assez élevée car il faut aller les couper dans les forêts voisines, les préparer et en effectuer le transport. On les prend en bois dur, résistant à la pourriture et aux termites. Il convient de les écorcer, de les dégrossir à la hache et de refendre les plus gros. Pour assurer leur conservation, on pourrait flamber la base ou partie qui doit être enterrée sur une longueur de 30 à 50 cm. Les tuteurs en bois tendre ou mal apprêtés ne sont que d'un court usage. Un bon tuteur sert pendant 12 à 20 ans. On fixe le petit poivrier à son tuteur à l'aide de lanières tirées de l'écorce de certaines lianes du pays et que l'on trouve dans le commerce. Au lieu de tuteurs en bois mort, on a proposé l'emploi d'arbres tuteurs vivants, comme cela se pratique dans l'Inde et à Sumatra notamment. Dans cette île, on plante les arbres tuteurs quelque temps avant la mise en place des poivriers, en choisissant des essences à branches supportant bien le vent, à feuillage suffisant pour fournir un demi-ombrage sans être trop dense et surtout à racines peu épuisantes. Il faut considérer que les tuteurs vivants appauvrissent le sol et nécessitent une fumure supplémentaire dont le prix peut atteindre, sinon dépasser, l'économie que l'on chercherait à réaliser par leur substitution aux tuteurs morts. Les arbres préférés comme tuteurs vivants sont les dattes. Ce nom indigène désigne diverses espèces d'Erythrina, genre appartenant à la famille des légumineuses. Ils sont peu épuisants et portent sur leur tronc et leurs branches des épines qui assurent une protection contre les animaux sauvages. Sont appréciés aussi le capoquier ou bombax, puis le manguier, le jacquier, la réquier, le cocotier, etc. On élague ces arbres afin que leur ombre ne soit pas trop épaisse. Lorsque les poivriers ont été plantés à demeure, les soins nécessaires consistent en sarclage pour empêcher l'envahissement par les plantes adventices, en arrosage pendant la saison sèche, quand les plants sont jeunes, et en fumure abondante. À défaut de fumier de ferme, à Hatien, les Chinois utilisent beaucoup les déchets de poissons et les carapaces de crevettes. Au bout de 35 ans, la liane ne produit plus assez pour qu'il y ait intérêt à la conserver et le renouvellement des plantes s'impose. Les fruits arrivent à maturité 4 mois après la floraison et il y a d'habitude 2 récoltes par an. Dans le sud de l'Indochine, la grande récolte s'effectue de décembre à mars, durant la saison sèche. Une seconde, bien moins importante, peut être faite en juillet-août. À Singapour, on cueille d'abord en avril-mai, puis en octobre-novembre. À Sumatra, la première récolte s'opère en décembre et janvier, la seconde en juillet et août. Aux Antilles, la première a lieu en août-septembre, c'est la principale, la deuxième en février-mars. Selon que l'on désire du poivre noir ou du poivre blanc, on cueille les fruits à deux étapes différentes. Quelques grains rougissent-ils dans chaque épi? Il est temps de les récolter si l'on veut avoir du poivre noir. On monte sur des escabeaux pour atteindre les épis que l'on détache à la main et le travail continue tous les 3 ou 4 jours à mesure que les grains sont à point. Ces fruits imparfaitement mûrs destinés à constituer le poivre noir sont égrenés puis soumis à la dessiccation soit par une exposition de plusieurs jours au soleil, soit par un séjour dans des séchoirs, méthode chinoise, étendue sur des dalles chauffées à feu doux. Il suffit de les passer ensuite au tarare pour éliminer les impuretés avant de les livrer au commerce. Pour la préparation du poivre blanc, les fruits doivent être récoltés lorsqu'ils sont à complète maturité, c'est-à-dire d'un rouge noirâtre. Sur la côte du Malabar, qui produit les poivres blancs les plus réputés, on cueille et on apprête à part les fruits les plus beaux et les plus mûrs, qui forment une sorte marchande supérieure. En Indochine, on fait la cueillette générale et les fruits sont placés dans des paniers ou dans des cuves qui restent pendant 3 ou 4 jours dans de l'eau courante. Alors on les frotte énergiquement entre les mains pour débarrasser les grains de la pulpe molle qui les entoure, et ceux-ci, séchés au soleil, prennent leur couleur blanc grisâtre caractéristique. Jumelles, plantes à condiments, écrit qu'on prépare parfois du poivre blanc avec du poivre noir desséché, qu'on met dans de l'eau afin de le ramollir jusqu'à ce que le péricarpe charnu soit suffisamment gonflé pour se désagréger. Le dépulpage s'exécute avec des appareils spéciaux. Nous avons dit que la culture du pipernicrum est pratiquée dans l'Inde, l'archipel malais et, sur une échelle moindre, en d'autres contrées tropicales. En Indochine, cette culture très ancienne était autrefois peu répandue. Elle s'est remarquablement développée depuis l'occupation de ce pays par la France. Dès 1898, nous apprend Auguste Chevalier dans un opuscule « Le poivrier et sa culture en Indochine », Paris, 1925. Pour une consommation totale de 2836 tonnes de poivre, la France en importait 1268 d'Indochine. En 1900, on comptait déjà au Cambodge 57 villages produisant du poivre, ainsi que 3710 petites plantations appartenant pour la plupart à des Chinois, à des Cambodgiens et à quelques colons européens. 672 000 plantes étaient en rapport et plus d'un million de jeunes pieds allaient bientôt fructifier. Les plantations de Cochinchine dans la province de Paria, île de Phung Quoc et surtout la région de Hong Kong avaient progressé de façon analogue. Aussi, en 1902, la France qui employa 3195 tonnes de poivre en reçut-elle 2414 d'Indochine et seulement 769 de l'Inde anglaise. La loi du 29 mars 1903 vint encore favoriser cet accroissement. Elle éleva les droits d'entrée sur tous les poivres, mais conserva la détaxe de 104 francs en faveur des poivres coloniaux, en même temps qu'elle supprima toute limitation sur les quantités admises à en profiter. Comme conséquence, la production fut intensifiée à tel point en Indochine qu'elle dépassa les besoins de la métropole. La détaxe n'avantagea guère les producteurs car les prix payés sur place s'abaissèrent continuellement. Depuis une dizaine d'années, la production oscille annuellement de 3500 à 4000 tonnes. La consommation française ayant plutôt tendance à diminuer, il reste à écouler chaque année de 700 à 800 tonnes dans les pays étrangers. En 1924, l'Indochine a exporté 4992 tonnes de poivre noir. Il en est sorti 2 tonnes 2 de Madagascar. En 1928, l'exportation de l'Indochine a été de 3206 tonnes, celle de Madagascar, 62 tonnes 4. Le Cambodge détient aujourd'hui la plus grande part de la récolte indochinoise. Le principal centre de culture est le village de Kep, à proximité de la mer, dans la résidence de Kampot. Celle de Takeo a quelques cantons producteurs. En Cochinchine, la culture est concentrée autour de Hong Kong, village chinois situé près du Cap de la Table, dans la province de Hatien. Elle existe dans l'île de Fukuok et la province de Paria. En Annam, des plantations de poivriers se rencontrent dans les provinces de Quang Tri et de Quang Nam. Pendant environ 15 ans, la culture du poivrier a assuré la prospérité des régions de Kampot et de Hatien. En 1904, près de 2000 hectares y étaient consacrés et elle occupait en permanence de 4000 à 5000 hommes. En outre, 8000 à 10 000 Chinois, annamites et cambodgiens se livraient temporairement à ce travail dans les exploitations familiales. Des colons européens y trouvaient également profit. Ces plantations, grâce aux soins dont elles étaient l'objet, n'auraient pas tardé à produire de 8000 à 10 000 tonnes, les 5000 à 7000 tonnes excédant les besoins de la France auraient sans doute été acquises par l'étranger. Les poivres de l'Insulinde et du Moyen-Orient s'étant raréfiés sur les marchés. Il est regrettable que cette culture, la seule rémunératrice dans une partie de notre Indochine, n'ait pas été davantage encouragée et que de lourds impôts établis au Cambodge par ordonnance royale les rendus précaires. Ces circonstances ont malheureusement provoqué l'abandon de plantations par beaucoup de cultivateurs et par suite une réduction notable du chiffre des exportations. Avant la guerre, un inspecteur des douanes écrivait dans un rapport publié dans le bulletin économique de l'Indochine que, ouvrez les guillemets, la merveilleuse culture avait fait naître tant d'espérances et dont le développement extraordinairement rapide avait étonné, semblait frapper mortellement. Fermez les guillemets. En 1923, la commission de recensement des poivriers en Cochinchine constatait de son côté, ouvrez les guillemets, l'état lamentable où est tombée cette culture jadis prospère. Les 500 tonnes détaxées accordées par la métropole à la Cochinchine ne pourront même pas être utilisées car pour les années 1923-1924, on ne compte que sur une exportation de 325 tonnes. Fermez les guillemets. En 1931, l'Indochine a exporté 44 607 quintaux de poivre. En cette même année, Madagascar en a produit 489 quintaux. Le poivre d'Indochine est d'excellente qualité et très apprécié. Il y aurait donc lieu d'examiner s'il serait possible d'améliorer les procédés de travail pour obtenir des récoltes plus abondantes tout en diminuant la main-d'œuvre de plus en plus onéreuse. Le piper langoum, linné, de l'Asie tropicale, et Chaba, Bloom de Bornéo sont les deux espèces qui produisent le poivre long. Le piper langoum a les feuilles cordiformes acuminées, sauf les supérieures qui sont ovales oblongues. La plante est dioïque. Les chatons femelles, portant des fleurs nombreuses et serrées, donnent des fruits groupés intimement en épis cylindriques compacts que l'on cueille avant leur maturité pour les faire sécher au soleil. Ils servent tels quels, sans que les grains soient séparés. Ces épis de poivre long ont, dans l'Inde, le même emploi que le poivre noir. Ils étaient très estimés des Romains. Dans l'Inde, la racine du piper longum est recherchée en thérapeutique comme diurétique, stimulante, laxative et sudorifique. Fin de l'histoire du poivre par Désiré Bois.